Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Parlons droit, ici à Radio-Canada 91 FM. L'émission Parlons droit vous vient de la part du Centre Info-Justice Manitoba, qui est un centre d'information juridique pour les francophones. Tous nos services sont gratuits et confidentiels, notre mission étant d'améliorer l'accès à la justice dans la langue française au Manitoba. Aujourd'hui, nous vous présentons un grand invité très spécial, impliqué depuis longtemps dans le domaine de justice au Manitoba et en particulier en français. Maître Donald Legal a obtenu un baccalauréat en art de l'Université de Saint-Boniface en 1992, un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa en 1995 et une maîtrise en administration des affaires de l'Université Queen's en 2002. Il détient également un certificat en andragogie de l'Université du Manitoba et un certificat en traduction de l'Université de Saint-Boniface. Maître Legal a été admis à la Société du barreau du Manitoba en 1997. Il a exercé le droit durant plusieurs années, principalement en litige civil et pénal. Et depuis 2004, il se consacre à la formation des adultes, tant comme formateur que comme gestionnaire de divers projets de formation, d'abord avec l'Institut Joseph Dubec. Maître Legal a conçu et dirigé des ateliers de formation dans toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada, auprès de divers groupes de domaines de la justice, dans la magistrature provinciale, les procureurs de la couronne, les interprètes judiciaires, les agents de probation et les greffiers. Mais Legal a aussi enseigné le droit, la gestion des équipes de travail et la communication à l'Université de Saint-Boniface. Il a siégé à de nombreux conseils d'administration dans des domaines aussi variés que les soins de santé, les arts et la jeunesse. Donc, on vous présente Maître Donald Legal. Bonjour Maître, comment allez-vous aujourd'hui?
Bonjour Jana, ça va très bien. Ça m'épate toujours les longues présentations comme ça, qui se résument essentiellement à ceci, il est vieux.
Ça me choque toujours quand je vois votre historique et toutes les choses que vous avez accomplies. Je suis toujours impressionnée à chaque fois que je lis la main. Je lis ça.
Écoute, quand on vit assez longtemps, on a le temps de faire beaucoup de choses.
Donc, on espère aujourd'hui discuter et échanger avec Maître Legal concernant la nouvelle loi sur le divorce et quelques-uns de ces changements. Donc, je pense que ce serait une bonne idée de commencer juste avec un aperçu, donner un peu de contexte du bilinguisme puis le partage de compétences. Donc, est-ce que Maître, vous pouvez nous expliquer, genre, cet enjeu-là, juste pour nous donner un peu plus de contexte?
Oui, certainement. Écoute, je dirais la première étape pour comprendre tout ce qui se passe en droit de la famille, vraiment, c'est de comprendre la distinction entre la séparation et le divorce. Parce qu'on voit à la télévision, là, dans les soaps d'après-midi, c'est souvent la même chose. On ne sait pas trop de quoi il en retourne. Il y a des émissions américaines où les gens se renseignent sur le droit, mais vraiment, tout ça, ça n'a rien à voir avec le droit canadien. Et je soupçonne probablement pas beaucoup avec le droit américain non plus. Mais enfin, le divorce, c'est une seule chose. C'est lorsque deux personnes mariées ne sont plus mariées. Alors, pour divorcer, il faut d'abord être marié. Maintenant, ça, c'est différent de la séparation. La séparation, c'est l'état de deux personnes qui sont mariées, mais qui ne font plus vie commune. Mais ces personnes-là sont toujours mariées. Alors, le mariage continue, c'est-à-dire que deux personnes séparées ne peuvent pas simplement se remarier à d'autres personnes parce qu'il est illégal au Canada d'être marié à plus d'une personne à la fois, généralement. Alors, c'est ça. La séparation, c'est deux personnes mariées qui ne vivent plus ensemble. Et le divorce, c'est deux personnes mariées qui étaient mariées et qui ne sont plus mariées. Et qui sont donc libres, présumément, de se remarier si elles le veulent. Il y a aussi tout un domaine de droit de la famille qui traite des cohabitants non mariés. Puis ça, je préfère pas trop m'embarquer là-dedans parce qu'on s'éloigne du sujet d'aujourd'hui, mais on pourrait certainement en parler à un autre moment. Alors, pour comprendre l'importance du nouveau régime de droit linguistique autour du divorce, il faut remonter à 1867, au moment de la Confédération. Parce qu'à ce moment-là, il y avait quatre provinces qui entrent en Confédération pour créer une union, un gouvernement fédéral. Mais là, il faut décider quel niveau de gouvernement détient quel pouvoir. Alors, par exemple, les quatre provinces originales décident que la défense, ça va relever du gouvernement fédéral. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui une armée canadienne et qu'il n'existe pas d'armée de l'Ontario ou d'armée de l'Alberta. Les postes, par exemple, on dit ça va appartenir au gouvernement fédéral. Alors, il y a Poste Canada, il n'y a pas de Poste Saskatchewan, ça n'existe pas. Puis, inversement, on décide, bon, les provinces vont s'occuper de certains domaines, comme l'éducation. C'est pour ça qu'il y a un ministre de l'éducation provinciale et, normalement, il n'y a pas de ministre de l'éducation fédérale. C'est la même chose pour la santé. La santé, c'est généralement un domaine d'activité provinciale. Alors, vous voyez, avec la loi de 1867, on a dit le fédéral fait ceci et le provincial fait cela. Et puis, dans ce partage-là, on a décidé que le fédéral s'occuperait de ce qu'on appelle le mariage et le divorce. OK? Ça, c'est fédéral. Il faut se rappeler que c'est une époque où le divorce, ce n'est pas une activité, ce n'est pas un projet que les gens entreprennent couramment. Alors, on dit que c'est fédéral et je pense que c'est un peu comme un oubli. On dit, bon, est-ce que c'est le fédéral, le provincial? Bon, ça n'arrive pas assez souvent. Mais les provinces retiennent la célébration du mariage. Alors, bizarrement, le mariage, c'est provincial et le divorce, c'est fédéral. On penserait que ce serait un seul niveau de gouvernement qui aurait le droit d'adopter des lois sur tout ça, mais non, mariage, c'est la province, c'est des lois provinciales qui règlent ça, et le divorce, ce sont des lois fédérales. En fait, c'est une loi fédérale principalement qui règle le divorce. Bon, pour compliquer les choses un tout petit peu, on dit aussi en 1867 que les provinces vont retenir la compétence sur la propriété et les droits civils. Alors, c'est pour ça, par exemple, que quand on achète ou on vend un terrain, le titre est déposé à un bureau provincial. Le bureau des titres fonciers, ça, c'est une institution provinciale. Les droits civils, tous les régimes de propriété. Si je veux être propriétaire de n'importe quel bien ou s'il y a une dispute sur un bien, je dis c'est ma tondeuse, toi, Jana, tu dis non, c'est ma tondeuse, ben, c'est une loi provinciale qui va nous aider à régler ce différend-là. OK. Alors, fédéral, divorce, provincial, le mariage et les droits de propriété. C'est une longue introduction, mais il faut comprendre ça pour se rendre jusqu'au droit linguistique. Bon. Si je suis marié, et je ne veux pas tout de suite un divorce, mais je veux une séparation, simplement. Ben, ce n'est pas aussi simple que de lire une seule loi provinciale. Ce serait le fun, n'est-ce pas, si on pouvait simplement lire une loi qui me disait, bon, voici toutes les conséquences de la séparation. Hélas, ce n'est pas si simple. Il y a, par exemple, au Manitoba, la loi sur l'obligation alimentaire qui dit combien je dois payer, pour quels enfants, dans quelles circonstances, et ainsi de suite. Il y a aussi la loi sur les biens familiaux qui dit, au moment d'une séparation, voici comment les biens sont partagés. Parce que, bon, il y a comme un principe général que le grand public comprend de partage 50-50. Et je dirais que c'est généralement le point de départ, mais ce n'est pas le point final. Parce que la séparation des biens, ça peut être certainement plus complexe que ça. Alors, il y a toute une série de lois provinciales qu'il faut connaître pour effectuer une séparation. Au fédéral, pour le divorce, il y a aussi quelques lois qu'il faut connaître, mais je dirais principalement, il faut connaître la loi sur le divorce. Et si on connaît cette loi-là, on est pas mal bien renseigné sur les obligations sur le divorce. Évidemment, quand je dis qu'on connaît la loi, ça veut dire qu'on connaît la loi et les grandes décisions qui ont été rendues par les tribunaux qui interprètent ces lois-là. Parce qu'il ne suffit pas de lire la loi, n'est-ce pas? Ce serait un peu comme, j'ai vécu cette expérience-là à Noël, un de mes enfants a reçu un nouveau jeu de société. Alors, on ouvre la boîte, on ouvre la planche, on sort les jetons et on commence à lire les directives. Puis on dit, OK, c'est pas si clair. C'est pas si clair qui roule le dé, quand, puis comment est-ce qu'on avance. Alors, ça prend quelqu'un pour nous aider. Et c'est ça que les décisions font pour les lois. On peut lire la loi, mais il y a toutes les décisions des tribunaux qu'on va appeler la jurisprudence. La jurisprudence va nous aider à mieux comprendre comment on applique la loi. Encore un tout petit peu d'histoire. Puis on va arriver aux dispositions linguistiques. Mais il faut comprendre tout ça avant. Alors, au Canada, avant, on a dit qu'en 1867, la fondation du Canada, tant mieux. Mais il n'y a pas de loi sur le divorce au Canada avant 1968. Alors, qu'est-ce que les gens faisaient pour divorcer avant 1968? Bien, la réponse simple, c'est que généralement, il n'y avait pas de divorce avant 1968. Maintenant, ce n'est pas la réponse complète parce qu'effectivement, il y en avait quelques-uns. Mais pour obtenir un divorce avant cette année-là, il fallait déposer une demande, demander un décret du gouverneur en conseil. C'était le cabinet à Ottawa qui rendait des divorces. Les règles n'étaient pas claires, ce n'était pas uniforme. Des fois, le cabinet pouvait refuser, puis on ne savait pas toujours pourquoi. Alors, c'était un peu compliqué. Alors, en 68, on décide, non, c'est assez. On va maintenant créer une loi sur le divorce qui va permettre aux gens de mieux comprendre comment ça marche et qui va obliger toutes les parties à respecter les mêmes règles. Mm-hmm. Parce que c'est un des principes du droit, n'est-ce pas? C'est qu'on adopte des lois pour ajouter à la certitude dans les activités quotidiennes des gens. Alors, il y a une loi sur le divorce qui est adoptée en 1968. C'est la première loi. Il y a une grande révision de la loi en 1985. Et moi, c'est la loi que je suis venu à connaître à l'école de droit. Une des grandes réformes de 1985, c'est qu'on reconnaît qu'il y a trois motifs de divorce et qu'il n'y a pas maintenant de faute. On ne parle plus de faute dans le divorce. Que ce soit la faute de l'un ou de l'autre, la loi ne traite plus de ça à partir de 85. Alors, autrefois, peut-être celui ou celle qui commettait l'adultère pouvait être vu en faute, mais la faute n'existe plus à partir de 1985. Et tant mieux, je pense. OK. Alors, 85, tout va bien, on a une belle loi, mais à partir de 85 déjà, les provinces qui s'occupent toujours de la séparation, on se rappelle, le fédéral s'occupe du divorce, mais la séparation, c'est des lois provinciales. Les provinces commencent à voir, avec la société qui évolue sans doute, commencent à voir qu'il doit y avoir des changements au régime sur la séparation. La loi de 85 parle de garde et d'accès aux enfants. N'est-ce pas? Puis, encore, c'est un des grands principes des SOAPs américains. Custody, puis access, puis tout le monde veut custody. Tout le monde veut la garde des enfants. Alors, ce concept-là, une espèce d'opposition entre les parties, une espèce de concours. Si bien que le parent qui obtient la garde des enfants est venu un peu comme le gagnant. Mm-hmm. Du divorce. Mm. Et puis celui qui a l'accès est vu comme le perdant. Puis ça, c'est malheureux, surtout qu'on reconnaît que le droit d'accès et de garde, c'est un droit de l'enfant, n'est-ce pas? C'est pas un droit du parent. Mm-hmm. Moi, comme parent qui divorce, je n'ai pas le droit d'avoir l'accès à mes enfants. Ce droit-là appartient à l'enfant. Alors, ça n'a pas d'allure que garde, ce soit le gagnant, l'accès soit le perdant. Alors, les provinces commencent à changer même le langage et toute l'attitude autour de ça. Et on commence à parler de temps parental. On dit vraiment, pour le bien de l'enfant, l'idéal, ce serait de passer autant de temps que possible avec l'un et l'autre parent. Il y a même des lois provinciales qui connaissent que le plus grand avantage de l'enfant, c'est aussi de passer du temps avec d'autres personnes. Puis on a entendu parler de ça durant les années 90-2000, des grands-parents qui déposaient des demandes au tribunal pour avoir le droit de voir les enfants, de garder les enfants. Il y a même des grands-parents qui demandaient la garde principale des enfants dans les cas où la famille reconnaissait que les parents n'étaient pas habiles à exercer ces fonctions-là. Alors, il y a tout un changement qui se passe du côté des provinces, et c'est graduel. Je veux dire, l'Alberta fait des changements, le Québec fait des changements, l'Ontario fait des modifications. Il y a des lois qui changent en Colombie-Britannique, au Manitoba et partout. Si bien que, rendu en 2010, on parle de, c'est quoi, ça fait 25 ans après l'adoption de la loi sur le divorce, en 2010, on commence à voir que vraiment les provinciaux sont mieux adaptés à l'échec du mariage que la loi sur le divorce l'est. La loi sur le divorce est rigide et fixée en 85, alors que les lois provinciales se sont adaptées. Alors, en séparation, on a un régime beaucoup plus, je veux dire, plus humain, plus humaniste. Mais dès qu'on arrive à la fin de la séparation et on demande le divorce, tout à coup, ah là, c'est le régime fédéral et c'est beaucoup plus rigide. On n'a plus la même flexibilité. Alors, à partir de 2010, le fédéral commence à penser, ce serait le temps de réformer cette loi-là. On va la refaire. Il y a des commissions de révision parce que la modification de loi, ce n'est pas un processus rapide. Il y a des institutions lentes et les gouvernements sont parmi celles-là. Alors, il y a des commissions, des comités, des consultations, et enfin, le 20 2018, la ministre de la Justice, qui était Jody Wilson-Raybould à l'époque, dépose son projet de loi à la Chambre des communes, qu'on a longtemps appelé le projet de loi C-78, parce que, bon, quand les projets de loi sont déposés à la Chambre des communes, ils ont un nom, mais on réfère normalement à ces lois-là d'après leur désignation alphanumérique. Là. Alors, dans le projet de loi C-78, qui s'appelle au long, et attachez-vous parce que c'est long le titre de cette loi-là, là. La loi modifiant la loi sur le divorce, la loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales et la loi sur la saisie arrêt et la distraction de pension et apportant des modifications corrélatives à une autre loi.
Oh my gosh.
À une autre loi. Ils viennent d'en nommer 28. Pourquoi pas en nommer une autre? Je ne comprends pas. Enfin. Alors, on a cette loi-là qui est déposée le 22 mai 2018, qui reçoit la sanction royale le 21 juin 2019. Ça veut dire que tout le monde a voté là-dessus. La Chambre des communes a voté trois fois et on dit oui, c'est bon. Le Sénat, ensuite, a voté trois fois sur la loi. Oui, c'est bon. Et après que ces deux processus-là ont abouti, il faut la sanction royale. C'est normalement le gouverneur général du Canada qui vient dire « oui, je décrète officiellement que cette loi est en vigueur ». Alors bon, à partir de l'été 2019, on a la nouvelle loi. Bon, qu'est-ce que ça fait cette loi-là généralement? C-78 propose une série de réformes, des modernisations, mais vraiment, C-78, cette nouvelle loi-là, vise à rapprocher toutes les procédures du divorce aux procédures qui existent dans les provinces pour la séparation. Comme ça, quand les gens se séparent et arrivent enfin à l'étape du divorce, bien, la loi sur le divorce est capable de se fondre au même processus et ce n'est pas un choc pour les parties parce que le processus est beaucoup plus fluide. Ce sont les mêmes démarches ou à peu près, ou presque, là, en séparation et en divorce.
Donc, en gros, les lois commencent à se... comme ils sont pas mal similaires. Les deux...
C'est ça. Puis, idéalement, on veut, n'est-ce pas, que la loi sur la séparation et le divorce soient semblables.
Oui.
Je pense. Parce que c'est bien beau pour les avocats de comprendre les nuances, les détails, les fines distinctions d'une disposition législative à l'autre. Mais pour le public, ça, ça ne fait rien du tout. Ça provoque la frustration et rien de plus. Alors, on a maintenant un régime, présentement, qui semble...
qui comme commence à se ressembler et puis comme coexister, peut coexister ensemble.
C'est ça. Alors, la séparation et divorce, les démarches de l'une et l'autre commencent à se ressembler davantage. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça va toujours être comme ça? Pas nécessairement. Ce qu'on remarque, c'est que les provinces ont généralement, pas toujours, mais généralement un peu plus de flexibilité. Alors, je pense que les provinces vont maintenant continuer d'évoluer et peut-être que dans 25 ans, on va dire, ah, ben la loi sur le divorce doit encore se rattraper aux lois provinciales. Qui sait? Enfin. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette loi-là sur le divorce, la nouvelle loi, le C-78, qui est adoptée en 2019? Cette loi-là remplace des mots comme garde, comme accès. Alors, tous ces concepts-là disparaissent. On parle maintenant de responsabilité décisionnelle et de temps parental. Alors, le père et la mère vont avoir du temps parental avec les enfants. On va attribuer à l'un ou à l'autre des responsabilités décisionnelles. Et puis, la loi dit spécifiquement, voici ce qu'on veut dire par responsabilité décisionnelle. C'est des décisions sur la santé, sur l'éducation, sur la culture, la langue, la religion et la spiritualité, et sur les activités parascolaires majeures. Alors, on commence à mieux décrire, puis encore, ça ressemble, je l'ai dit souvent, là, mais je vais le dire encore, ça commence à ressembler davantage aux lois provinciales. On parle aussi dans la nouvelle loi d'une ordonnance parentale et des ordonnances de contact. L'ordonnance parentale, c'est pour le parent, bien sûr. Les ordonnances de contact, ce serait pour des grands-parents. Ça pourrait aussi être pour un oncle ou une tante, parce qu'il y a des enfants, certainement, qui ont passé beaucoup de temps là, plutôt qu'avec les parents. Et puis, la loi veut prévoir la continuité de ça. Ça pourrait être théoriquement un voisin chez qui l'enfant a passé beaucoup de temps. Enfin, il est difficile de savoir jusqu'où ça va parce que il n'y a pas de tribunal qui a rendu de décision là-dessus encore. Mais ça va certainement commencer à venir, ces décisions-là. La loi définit aussi, ah, ça c'est important, le déménagement important. Parce que ça causait des conflits avec l'ancienne loi sur le divorce. Deux parents divorcent, la mère ou le père demande la garde de l'enfant et décide, ah, ben je vais quitter Winnipeg, j'ai maintenant un emploi à Calgary et j'amène les enfants avec moi. Ben là, comment est-ce que l'enfant peut voir l'autre parent? Alors, la loi fédérale, la loi sur le divorce, prévoit maintenant un processus qui définit ce que c'est un déménagement important. Et quand un des parents propose un déménagement important, il y a tout un processus d'évaluation qui est enclenché pour savoir, bon, qu'est-ce qui est, à ce moment-là, l'intérêt de l'enfant dans tout ça. Est-ce que l'intérêt de l'enfant, c'est de suivre le parent à Calgary pour être avec ce parent-là, ou est-ce qu'il est mieux pour l'enfant de rester ici avec l'autre parent? Et là, ben, l'autre parent qui proposait de déménager à Calgary va peut-être se raviser puis dire, ben, okay, je peux peut-être trouver un emploi plus près pour être plus près des enfants ou pourrait décider d'aller à Calgary quand même. Enfin, on traite explicitement de ces concepts-là dans la loi. On parle de violence pour la première fois dans cette loi-ci parce que la violence, c'est hélas un élément qu'on retrouve de temps en temps au moins dans des situations de divorce, certainement pas dans tous les cas, mais dans certains, et la loi va en traiter explicitement. La loi parle aussi d'un mécanisme de règlement de différends familiaux. Alors, il y a tout un régime de violence. La loi parle aussi de l'obligation du tribunal d'aller vérifier, avant de rendre des décisions sur le temps parental, le tribunal doit aller vérifier s'il y a aussi des démarches criminelles qui sont en cours. Parce qu'autrefois, typiquement la mère disait, je ne veux pas que le père ait les enfants parce qu'il est présentement accusé de violence, de possession de drogue, c'est sa troisième infraction, je ne sais pas quoi. Et puis le tribunal de famille disait, ben, on ne peut pas tenir compte explicitement de ça, on va peut-être le faire implicitement, on va peut-être le cacher. Mais maintenant, la loi dit spécifiquement, le tribunal doit aller voir, s'assurer qu'il n'y a pas de démarche, et s'il y en a, elle doit tenir compte de ça au moment de rendre son ordonnance sur tout ce qui a à faire avec les enfants. OK. Alors, tout ça, on est remonté en 1867, on arrive à l'été 2019, et puis on parle de la nouvelle loi. Alors, j'ai dit, dans la nouvelle loi, il y a toute une série de nouvelles dispositions. Une de ces dispositions-là, c'est, et puis Gianna, c'est à ça que tu voulais que je vienne, peut-être plus rapidement, mais voilà, c'est l'article 23.2 de la loi sur le divorce qui s'appelle langues officielles. Bon, la loi C-78, la nouvelle loi sur le divorce, est entrée en vigueur le 21 juin 2019. La nouvelle disposition sur les langues officielles, et ça, c'est un peu étrange, mais on voit ça de temps en temps avec des lois. Les dispositions linguistiques ne sont pas en vigueur partout au pays. Pas encore. Elles sont en vigueur, et là, je l'écris pour ne pas l'oublier, elles sont en vigueur au Manitoba, au Yukon et au Nunavut. Alors, tout ce dont on va parler maintenant, les dispositions sur les langues officielles, sont en vigueur ici, chez nous, au Manitoba, au Yukon et au Nunavut. Alors, en plus du Manitoba, du Yukon et du Nunavut, depuis le 1er février, ces dispositions-là linguistiques sont aussi en vigueur en Saskatchewan et en Ontario. Alors, on parle de 3 provinces et 2 territoires. À quand les autres provinces et les territoires du Nord-Ouest? Qui sait? Et puis, on pourra parler dans un instant de pourquoi ça n'est pas adopté partout.
Ça, c'était exactement ma question, parce que c'est une loi fédérale. Donc, pourquoi est-ce que cette loi se fait, ou cette nouvelle disposition se fait adopter par les provinces à différents moments?
OK. Ça revient à ceci. Je vais remonter au partage des pouvoirs, mais rapidement, là. Ce ne sera pas long. En droit criminel, par exemple, c'est le gouvernement fédéral qui a le droit d'adopter des lois dans le domaine criminel, mais l'administration des tribunaux, les cours, qui appliquent la loi criminelle, ça relève des provinces. OK. Une autre bizarreté constitutionnelle canadienne. Alors, si on veut modifier la loi, le code criminel, il faut s'adresser au gouvernement fédéral, mais les tribunaux devant lesquels je dois comparaître si je suis accusé d'une infraction criminelle, les tribunaux sont gérés par la province. Or, la province pourrait ne pas reconnaître d'obligation linguistique dans ces tribunaux. Alors, par exemple, je prends la Colombie-Britannique, mais ça pourrait être n'importe qui. La Colombie-Britannique, qui n'a pas de loi provinciale sur les langues officielles, pourrait dire, ben oui, on va appliquer le code criminel, mais comme on n'a pas l'obligation de faire des procès criminels en français ou de faire aucun procès en français, on ne le fera pas, on va le faire en anglais seulement. C'est pour ça que dans le contexte du code criminel, on a adopté l'article 530. Si vous parlez avec un criminaliste francophone, il va parler simplement de 530, des obligations de 530. Ce que 530 dit, c'est que oui, effectivement, on impose dorénavant certaines obligations aux tribunaux provinciaux criminels. Alors, c'est pour ça que si je suis accusé d'une infraction criminelle à Vancouver ou à Calgary ou à Halifax, ça ne fait rien où je suis accusé, j'ai les mêmes droits de comparaître en français pour faire face à une accusation criminelle. Ça, ce n'était pas le cas pour la loi sur le divorce. Puis on avait la même situation. Le fédéral adopte la loi sur le divorce, mais les tribunaux sont gérés par la province. Alors, c'est pour ça qu'on a adopté maintenant l'article 23.2 qui impose des obligations de langue officielle sur l'administration des tribunaux. Maintenant, les provinces, on peut l'imaginer, on dit OK, oui, mais on n'est pas prêt pour ça. Et qu'est-ce qui arrive si quelqu'un demande le service en français, demande un procès en français et on n'est pas prêt pour? Là, ça va provoquer une crise linguistique, crise constitutionnelle. Personne ne veut s'embarquer là-dedans. Alors, le fédéral dit, OK, c'est correct, les provinces, on va adopter la loi, mais cette disposition-là, linguistique, va entrer en vigueur seulement quand vous allez nous dire que vous êtes prêts ou encore quand on va juger que vous êtes prêts. Alors, le Manitoba, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais il y a déjà des juges bilingues dans les tribunaux. Il y a un appareil administratif bilingue, c'est-à-dire qu'il y a au bureau du greffe de la cour, il y a des gens qui sont bilingues. Il y a des avocats bilingues. Alors, au Manitoba, ce n'est pas un grand problème. Adopter cette disposition-là, c'est un peu comme reconnaître le statu quo. Mm-hmm. Et puis, présumément, au Yukon et au Nunavut, c'était la même chose. Dans les territoires, effectivement, le bilinguisme marche généralement très bien parce que le fédéral est responsable de tellement d'activités-là. Mais enfin, alors, la Saskatchewan et l'Ontario, comme toutes les autres provinces, disent « attendez qu'on soit prêt ». Puis là, la Saskatchewan et l'Ontario ont dit « oui, on est prêt ». Et c'est pour ça qu'on a adopté… c'est pour ça que la loi est entrée en vigueur le 1er février. Maintenant, quand les autres provinces seront-elles prêtes, ça, c'est pas clair. Parce que faut comprendre à quoi ça engage les provinces, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Puis là, je vais voir la disposition 23.2, langues officielles, qui dit ceci. « Toute instance engagée sous le régime de la présente loi peut être instruite en français, en anglais ou dans les deux langues officielles du Canada. » Alors déjà, s'il y a une province qui dit « c'est bien beau, mais on n'a pas de juge bilingue » ou en tout cas, on considère qu'on n'a pas de juge habile à entendre ça ou il y a un aspect de l'élément de l'appareil judiciaire qui ne peut pas desservir le client ou la personne qui demande le divorce en français, on ne veut pas s'embarquer là-dedans. Alors ça, c'est la première étape. Mais ça devient encore plus spécifique plus tard dans la loi, dans le cadre de toute instance engagée sous le régime de la présente loi, toute personne a le droit d'employer l'une ou l'autre des langues officielles, notamment lorsqu'elle dépose des actes de procédure, lorsqu'elle témoigne et lorsqu'elle expose ses prétentions. Alors, ça veut dire que je peux maintenant déposer mes documents en français. Ma requête en divorce, par exemple, je peux la déposer en français. Ça, c'est le document qui initie le divorce. Si j'ai des affidavits, par exemple, des déclarations de témoins que je n'ai pas besoin de faire témoigner en personne, ces déclarations peuvent être écrites en français. Et le tribunal ne fera pas de cas avec ça parce que c'est dans la loi. Tous mes témoins peuvent être en français. Ils peuvent témoigner en français. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire si mon témoin témoigne en français? Ça veut dire que le juge ou la juge doit comprendre le témoin. N'est-ce pas? Parce que le tribunal ne comprend pas le témoin. À quoi ça sert d'avoir le témoin? C'est un peu comme mes enfants parlent avec le jargon des jeunes. Moi, je ne comprends rien. Ça ne sert à rien de me parler comme ça. Alors, c'est pour ça que la loi, très prévoyante, la loi qui dit plus loin, toute partie a droit à ce que le juge parle la même langue officielle qu'elle ou les deux langues officielles. C'est bien pensé, n'est-ce pas? Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le juge parle la même langue officielle. Est-ce qu'il y a un test? Est-ce qu'il y a un seuil? Est-ce qu'il y a une barre? Un seuil à franchir? Ça, c'est pas défini. Mais enfin, si les tribunaux sont de bonne foi, et ils le sont sûrement, on va pouvoir compter là-dessus. Si j'ai un témoin ou deux témoins qui témoignent dans une langue et dans l'autre, le premier en français, le deuxième en anglais, il n'y a pas de problème parce qu'une autre disposition de la loi dit que le tribunal est tenu d'offrir des services d'interprétation simultanée d'une langue officielle à l'autre. Alors, j'ai une garantie d'interprétation.
Puis simultanée, ça veut dire comme pendant l'audience, en même temps.
En même temps.
Mm-hmm.
Maintenant, il y a toujours un débat sur qu'est-ce qui est préférable, l'interprétation simultanée ou l'interprétation consécutive? Mm-hmm. Simultanée, ça veut dire que ça se passe en même temps. Dans consécutive, on attend que le témoin ait dit des choses et l'interprète va ensuite interpréter. Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce que tu préfères, toi, Jana?
Personnellement, moi, je pense que comme... Je ne sais pas. Peut-être comme si le témoin a fini puis ça me dit tout un... Il parle pour comme 15 à 20 minutes, je pense que ce que l'interprète, ce serait plutôt oui. comme un recap, comme un résumé bref de ce qui a été dit, peut-être pas mot pour mot. Puis si je suis dans une procédure de divorce, j'aimerais être capable de comprendre ce que le témoin dit mot pour mot, parce que c'est comme mon futur qui est sur la ligne, là.
Voilà.
Mais en même temps, une interprétation simultanée peut-être rendre la procédure beaucoup plus longue. Tu sais, comme au lieu d'être là pour comme une demi-heure, ça va être une heure et demie ou deux heures, ce qui est plus coûteux, plus de tout ça.
Tu vois, puis c'est exactement ça le débat, là. Tu l'as précisément défini. C'est qu'en interprétation simultanée, ça va beaucoup plus vite. Et pour l'avocat ou l'avocate qui pose ces questions, il y a souvent un rythme dans les questions. Il y a une stratégie, mm-hmm. n'est-ce pas, en salle d'audience. Et je ne veux pas casser mon rythme. Mm-hmm. Et puis, si j'ai un interprète consécutif, ah ben là, je pose ma question, j'attends que l'autre traduise ou interprète ma question, mm-hmm. le témoin répond, l'interprète rend ce témoignage-là dans la langue originale. Alors, c'est ça, en interprétation consécutive, c'est plus long. Mais, de l'autre côté, en interprétation simultanée, le désavantage, comme tu disais, Jana, c'est je ne peux pas savoir comme avocat mm-hmm. ce que l'interprète a dit. Mm-hmm. Et puis souvent, puis c'est pas pour miner l'autorité des interprètes, j'en connais plusieurs, comme on dit, plusieurs de mes meilleurs amis sont des interprètes. Et ils font un excellent travail, mais ils n'ont pas tous une formation égale en droit. Puis mm-hmm. on ne peut pas s'attendre à ce que les interprètes aient une formation complète en droit. Ils ne connaissent pas non plus toutes les circonstances de la cause. Mm-hmm. Alors, il est possible que moi, je pose une question, puis il est très clair pour moi ce que ça veut dire. Et il est peut-être très clair pour le témoin ce que ça veut dire. Mais l'interprète n'a pas ce contexte-là, puis il n'a pas le bagage juridique. Alors, le problème de l'interprétation simultanée, c'est que je ne peux pas entendre, puis je ne peux pas m'assurer que l'interprète a rendu exactement ma pensée comme moi je l'imaginais. D'une autre façon, ça va plus vite.
Mais là, je voulais dire quelque chose là, parce que si on veut dire que voilà, avec cette interprétation, je ne saurais pas savoir ce que l'interprète dit. Je pense que c'est peut-être le travail de l'avocat, alors, parce que si on m'interprète, ça veut dire que je ne connais pas la langue que l'interprète utilise pour, n'est-ce pas? Si c'est en français, donc moi, je ne comprends pas l'anglais pour que je sache exactement ce qu'il a dit de réel à l'égard du juge. Donc, c'est peut-être l'avocat qui peut être un peu au milieu pour voir est-ce que réellement il a traduit la même chose ou bien il a peut-être changé les contextes. Vous comprenez un peu ce que moi je pense à ce sujet-là.
Voilà. Alors, si l'interprète était là pour parler hongrois, ben moi, je ne comprends pas l'hongrois, je ne parle pas hongrois. Voilà. Je ne pourrais pas savoir si l'interprétation est bonne ou mauvaise. Mm-hmm. J'ai aucune idée. Voilà. Mais comme je parle français et anglais, moi, je veux savoir si l'interprète transmet ma pensée.
Oui.
Puis on le sait, vous avez tous fait le jeu du téléphone, là. Où il y a une distorsion du message. Il est possible que moi, je m'exprime et que l'interprète rentre très bien les mots. Mais, oui. mais peut-être que c'est moi qui n'ai pas communiqué le sens précis de ma pensée dans ma question
là,
ou dans mon commentaire. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas du tout une critique de l'interprète, mais c'est un défi de ce régime-là de l'interprétation simultanée et consécutive.
Mm-hmm.
Alors, enfin, la nouvelle loi sur le divorce permet ça. Et enfin, on dit le tribunal sur demande de toute partie, il y a d'autres éléments, mais je veux dire enfin pour les fins de notre entretien, le tribunal sur demande de toute partie met à sa disposition dans la langue officielle de son choix tout jugement ou toute ordonnance rendue en application de la présente loi. OK. Ça, ça veut dire beaucoup de choses. Si je suis avocat et je veux faire un bon travail pour ma cliente ou mon client, j'ai besoin d'avoir accès à toutes les décisions qui ont été rendues théoriquement par tous les tribunaux depuis le début de l'histoire du Canada dans toutes les provinces et au gouvernement fédéral. Bon, évidemment, je n'utiliserai pas toutes ces décisions-là, mais je devrais théoriquement y avoir accès. OK. Même si une province décide de reconnaître, d'adopter les dispositions linguistiques de la loi sur le divorce, cette province-là ne s'engage pas pour autant à reconnaître les mêmes obligations au moment de la séparation. Comprenez, c'est deux processus différents. La province pourrait dire, mais pour la séparation, ça va être uniquement en anglais, mais au moment du divorce, là, oui, ça peut se faire en français. Elle pourrait le faire. Je ne sais pas ce que les provinces vont véritablement décider. Peut-être que les provinces vont dire, ah, bien, écoute, on le fait pour le divorce, on va le faire pour la séparation aussi, c'est pas plus compliqué, c'est pas clair. Mais enfin, dans une province qui déciderait, nous, on va rendre des décisions sur la séparation uniquement en anglais. Mais là, c'est potentiellement problématique parce que la loi sur le divorce dit, moi, je devrais avoir accès à toutes les décisions pertinentes dans la langue de mon choix. Et si la langue de mon choix, c'est le français, là, la question, c'est est-ce que ça crée une obligation du côté des provinces à publier toutes ces décisions de famille dans les deux langues?
Parce que ça pourrait aussi causer comme des défis pour des avocats qui ne sont pas bilingues, qui parlent seulement peut-être l'anglais ou seulement peut-être le français. Là, peut-être il y a une décision très importante en français qui est seulement publiée en français, qui n'ont pas accès.
Effectivement, certainement. Mm-hmm. Puis là, je vais faire juste une petite parenthèse parce que tu as ouvert un sujet qui me passionne, Jana. C'est l'idée qu'un avocat canadien peut s'exercer le droit sans connaître les deux langues officielles. Je ne vois pas, puis ça c'est un point de vue personnel, là, ça, c'est l'opinion de personne d'autre. Je ne vois pas comment on peut prétendre défendre son client au Canada, surtout si on utilise des lois fédérales qui sont bilingues ou des lois bilingues de province qui adoptent dans les deux langues, comme le Manitoba, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, certaines lois qui sont adoptées dans les deux langues. Je ne vois pas comment on peut dire bon travail pour son client si on ne peut pas lire les deux versions de la loi. Parce que, vous savez, parce que vous êtes tous bilingues, vous savez que quand on lit les deux versions d'une loi officiellement bilingue, les mots sont un peu différents et le sens pourrait être un peu différent. Et il est possible qu'il n'y ait pas d'avantage pour mon client dans la version anglaise, mais que la version française en offre, et vice-versa. Alors, je reviens à la loi sur le divorce. On dit qu'il faut que le tribunal mette à ma disposition les jugements rendus en application de la loi sur le divorce. Mais si je ne peux pas lire les versions française des décisions qui sont rendues sur la séparation. Puis la séparation, c'est le régime provincial. Si je ne peux pas lire ces décisions-là qui ont mené à des ordonnances, par exemple, sur le temps parental ou sur la pension alimentaire qui est payable aux enfants, si je ne peux pas lire ça en français, je ne peux pas vraiment faire mon divorce en français. Alors là, la question, il me semble qu'il va se poser, c'est est-ce qu'il y a une obligation de la part des provinces de rendre toutes leurs décisions, au moins en droit de la famille? Et c'est peut-être plus vaste que ça. au moins en droit de la famille en français. Et plus encore, et ça pour moi, ça va être le champ de bataille le plus intéressant. Est-ce que les provinces vont maintenant avoir l'obligation d'adopter officiellement leur loi provinciale en droit de la famille dans les deux langues officielles? Moi, je pense que oui, il va falloir avoir la jurisprudence là-dessus. Mais si la province n'a pas sa loi, par exemple, si le Manitoba n'avait pas ses lois sur les obligations familiales, les obligations alimentaires, si cette loi-là était en anglais seulement, et qu'on me dit que j'ai le droit à essentiellement à tout ce qui se passe en droit de la famille dans les deux langues, bien, je ne peux pas faire mon travail. Je ne peux pas représenter mon client. Alors, je ne sais pas comment les tribunaux vont trancher là-dessus, mais ça va être excitant, je pense. Enfin, excitant pour les avocats dans le domaine. Là, pour le grand public, je ne sais pas si ça va être très fascinant. Mais pour les juristes qui exercent dans le domaine, ça va soulever des questions fascinantes.
Ça va définitivement ouvrir la porte pour plusieurs autres enjeux dans le futur, je suis certaine. Est-ce que vous pensez, juste pour terminer rapidement, est-ce que vous pensez que cette loi va peut-être, dans le futur, ouvrir une obligation de formation en français pour peut-être les avocats aussi?
Ben voilà ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas? Si, parlons juste des répercussions simples, des répercussions douces de ça. Si on disait, ben oui, effectivement, il y a une obligation des provinces d'avoir des juges bilingues en famille, ça c'est dans la loi, alors dès qu'on adopte cette loi-là, oui, on est obligé d'avoir des juges bilingues. Il faut aussi un appareil administratif bilingue. Tout ce qui se passe en arrière-scène, c'est bilingue. Du coup, qu'on a tout cet appareil-là, il n'y a plus d'empêchement pratique à présenter n'importe quelle demande au tribunal en français, n'est-ce pas? Si l'appareil est déjà bilinguisé par la force de la loi sur le divorce, ben pourquoi je ne pourrais pas ensuite soulever n'importe quelle question en français? Parce qu'il y a des juges bilingues, il y a l'appareil bilingue, il va y avoir des procureurs bilingues. D'ailleurs, il y a des procureurs bilingues dans presque toutes les grandes villes. Et ça pourrait ouvrir la porte à quelque chose de très, très beau pour le bilinguisme dans les tribunaux. Je pense que pour l'instant, les tribunaux, les ministères de la justice provinciaux craignent de ne pas pouvoir satisfaire aux obligations linguistiques. Je soupçonne que la plupart entreprennent déjà des démarches pour satisfaire aux exigences de la loi sur le divorce, pour avoir des juges bilingues, pour avoir l'appareil bilingue, pour avoir un service de traduction des décisions. Je pense que la plupart des provinces entreprennent ça, mais c'est comme tout le reste, n'est-ce pas? Le changement fait peur. Et puis la province se dit, bien, attendons d'être prêt. Et quand on sera vraiment sûr d'être prêt, bien là, on va s'embarquer.
Mais j'ai une inquiétude. En fait, j'ai réfléchi un peu à haute voix. Je me suis dit que bon, ça relève un peu de la compétence fédérale, ainsi de suite, mais on a laissé la brèche aux provinces pour l'appliquer une fois qu'elles seront peut-être à mesure de l'appliquer avec toutes les dispositions à prendre. Alors, je me suis dit, est-ce que tu ne trouves pas que la loi ici risque pour d'autres provinces de rester perpétuellement sans être appliquée parce que la province peut avancer un argument en disant que non, nous, on n'est pas disposé jusque-là, on n'est pas encore prêt à l'appliquer. Et puis, ça peut rester perpétuellement comme ça. Ce n'est pas vraiment une inquiétude. Ou bien, il fallait quand même qu'on donne un temps pendant lequel la province peut peut-être se préparer pour l'amener en temps en vigueur. Je ne sais pas.
Ouais. Ben, écoute, Cathy, c'est bien possible. Mais je pense que si on regarde historiquement, les provinces ne sont pas toujours foncièrement opposées à la reconnaissance de droits linguistiques. Puis il y a des gens qui vont se demander de quoi je parle, là. Je pense que les provinces ne veulent pas s'embarquer si elles n'ont pas les moyens de satisfaire aux exigences qui seraient imposées. Ça, c'est sûr. Ensuite, les provinces vont normalement attendre des périodes où il n'y a pas de crise linguistique nationale. Ils vont dire, bon, OK, on a une paix relative linguistique. On peut maintenant adopter cette disposition linguistique-là sans que ça suscite trop d'émoi. On va le faire un vendredi après-midi, par exemple, d'été, puis personne ne va remarquer et ça va bien aller. Et je pense que si on donne le temps aux provinces et aux territoires du Nord-Ouest de le faire, je soupçonne que, quoi, peut-être dans 2 ou 3 ans, je soupçonnerais que dans 3 ans, les provinces, toutes les provinces, aient adopté les dispositions sur le bilinguisme. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en application? Il restera à voir. Est-ce que ça va vraiment s'étendre à d'autres domaines, comme je l'imagine? Ça c'est dans le secret des dieux, là. On ne peut pas savoir.
Ça, c'est ça. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui.
Oui.
Merci à notre invité aujourd'hui, Maître Donald Legal. Ça a été véritablement presque un cours en droit, une explication vraiment complète de l'évolution. Oui. On voit une évolution sociale qui accompagne le divorce. On voit qu'en 1968, il n'y avait même pas vraiment encore, c'était pour la première fois qu'il y avait même une procédure plus connue, plus constante, mais qu'il y avait quand même cette dimension de la partie fautive qui a seulement été enlevée en 85. Et maintenant, on continue, disons, cette modernisation, si on peut l'appeler, c'est ça un peu le terme qu'on utilise dernièrement, vers éviter qu'il y ait une partie gagnante, perdante. Et puis, je pense que pour accompagner cette humanité, il va de soi que les personnes puissent témoigner, puissent s'exprimer et puissent être comprises par une appareil compétente dans la langue officielle de leur choix. Alors, je veux juste présenter un grand merci à notre invité, Maître Donald Legal, encore une fois, du Centre canadien du français juridique. Ça a été vraiment tout un plaisir de recevoir encore une fois. Et puis,
merci beaucoup. C'est très agréable de m'entretenir avec vous tous. Puis j'ai bien hâte à la prochaine fois.
Merci beaucoup. Vous avez écouté l'émission Parlons droit ici à la radio Envol 91.1 FM. On vous souhaite tous et à toutes une très belle journée et on sera de retour en 2 semaines, mercredi matin à 9h. Je vais juste indiquer que vous pouvez retrouver nos services sur le site web www.infojustice.ca. Vous pouvez aussi nous contacter au 204-815-5274. Encore une fois, le 204-815-5274, c'est Info Justice Manitoba. C'était l'émission Parlons droit. Et puis encore une fois, notre invité, Maître Donald Legal. Grand merci. Bonne journée à tous et à toutes. Et à la prochaine.